Vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié? Vous avez besoin d'un accompagnement financier pour suivre une formation qui vous est nécessaire? Retrouvez toutes les informations utiles sur le site fafcea.com.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Paul Breitner, Paulo Breitner, Johan Crochet, Julien Laurence et Fred Armel, vous écoutez RMC Génération After, Drôle de Dame, jusqu'à 22h bien sûr, 20h33. Messieurs, semaine de Ligue des Champions à venir, vous allez être mobilisés tous, mardi, mercredi, et Ligue Europa Conférence jeudi. Tout à l'heure on parlera de l'adversaire de Nantes, Fribourg, co-leader de Bundesliga, une des surprises, hein, avec Brighton qui est top 4, et en Espagne, Bilbao. Troisième de Ligue 1.
Attention,
tu nous raconteras
une histoire. Non, dis pas Bilbao. Tu vas, si tu vas voir
des clubs.
Voilà.
Oui, enfin.
Mais si jamais tu rencontres un supporter de l'Athletic Club et dire Bilbao, ça n'existe pas.
Je rencontre pas. Voilà. Je n'ai jamais rencontré dans ma vie.
Voilà. Non, mais on est mission sérieuse ou on n'est pas mission sérieuse?
Mais non, faut jamais.
Il y a des trucs.
Sérieux. Mais oui,
si on ne dit pas Real de Madrid, on ne dit pas Bilbao.
C'est vrai, tu as raison.
Voilà.
Merci. Bon, messieurs, Chelsea Milan mercredi soir. Chelsea, je le disais, dernier de son groupe, hein, avec le Dynamo Zagreb et le RB Salzbourg derrière eux. Est-ce que tu as vu samedi, Julien, victoire 2-1 face à Crystal Palace, est-ce que c'est de nature à rassurer les supporters des Blues?
Non, pas trop.
Pas trop.
Honnêtement, ça a été laborieux. D'ailleurs, c'est une victoire à la dernière minute, hein, sur un but magnifique du jeune Conor Gallagher qui était rentré en jeu. C'est un match où Thiago Silva aurait dû être expulsé en première période, où je comprends toujours pas comment l'arbitre fait pour ne pas sortir un carton rouge sur cette main volontaire alors qu'il est au sol et qu'après le joueur de Crystal Palace part au but. D'accord, il y a d'autres défenseurs, il y a d'autres joueurs de Chelsea qui courent vers leur but à eux et qui l'auraient peut-être rattrapé, je sais pas, mais pour moi c'est carton rouge direct. Et ensuite après c'est Thiago Silva qui fait la passe d'aise pour Aubameyang, pour le premier but d'Aubameyang sous ses nouvelles couleurs, un but qui est d'ailleurs un joli but où il finit vraiment bien. Mais Thiago Silva ne doit pas être sur le terrain. C'est laborieux, mais c'est une victoire qui est très importante pour Potter, juste dans psychologiquement, pour la dynamique positive. Il a des joueurs qui vont revenir de blessures, comme N'Golo Kanté par exemple, qui a repris l'entraînement. Voilà, il y a encore plein de choses à régler, mais au moins tu t'évites pas une crise, parce que même s'il avait match nul ou s'il avait perdu, c'était pas la crise. Mais en tout cas, cette victoire, elle te fait du bien. Elle fait du bien au moral, surtout avant ces deux matchs contre le Milan qui vont arriver en Ligue des Champions, qui sont tellement importants, parce que si tu te rates là. Après c'est fini quoi, tu joueras l'Europa League ou tu regarderas les Coupes d'Europe à la maison à partir de février. Donc c'est très important pour Potter. Tu sens pas vraiment encore la touche Potter, contrairement à De Zerbi dont on parlera tout à l'heure, qui l'a remplacé à Brighton. Mais c'est vrai que cette victoire elle a fait beaucoup beaucoup de bien.
La chance de Chelsea, Johan, c'est qu'il y a une hécatombe de blessures à Milan.
Ouais, ça c'est.
On peut les lister, hein, c'est fou.
Alors c'est Maignan, Théo Hernandez, Florenzi, Kier, Calabria, Messias, Selmakers, Zlatan. Sachant qu'Origi sera de retour dans le groupe, mais il pourra pas démarrer. Généralement, quand c'est comme ça, ça arrive en série et ça va sans doute continuer parce que c'est toujours comme ça, malheureusement. Malgré tout, moi, ce qui me plaît, c'est que un, l'entraîneur de l'AC Milan ne prend jamais les blessures comme excuse pour parler des performances de son équipe. Ça, c'est extrêmement agréable. Deux.
Et en plus, il prend le train pour aller à Empoli.
On a vu en Italie, la norme, c'est de prendre le train ou le bus. Hein. C'est voilà. J'en avais parlé d'ailleurs avec des gens.
Aucune émeute à la gare, hein. On a vu. Hein.
Ah non, mais j'en avais parlé avec des gens à Milan et à Rome, notamment à Sassuolo aussi, à Spezia, etc. Je fais rapide. À Milan, on m'a dit, ça fait 15 ans qu'on prend le train. On a eu un problème une fois, c'est les tifosi de la Fiorentina qui avaient mis le bordel à Florence à la gare, qui voulaient attraper les joueurs, etc. Sinon, on n'a jamais eu de problème. Et je peux vous dire qu'il y a des joueurs qui, quand il y a un peu le temps et qu'il n'y a pas d'émeute ou trucs comme ça, ils vont faire des selfies, signer des autographes, il n'y a pas de problème, quoi. Bref,
Le Milan,
qui a gagné 3-1 à Empoli dans une fin de match un peu fofolle, un peu étrange, qui a un Rafael Leao qui marche sur l'eau, il y a un consultant en Italie, Lele Adani, qui est un ancien joueur, Daniel Adani, qui a joué à la Fiorentina, à l'Inter. Ça n'a pas été un immense joueur, mais ça a été un bon défenseur de Serie A, qui est le meilleur consultant en Italie, qui disait aujourd'hui, Leao, c'est le meilleur joueur en Italie.
Tout simplement.
Ouais, je suis assez d'accord avec lui. C'est le joueur qui est capable de renverser tous les équilibres qui peuvent arriver dans un match. C'est un joueur qui, quand il prend la balle, tu te dis, tout peut arriver. Tout peut arriver. Ce qu'il fait ne te surprend pas. Quand il a décidé d'éliminer deux joueurs, il les élimine. Trois joueurs, il les élimine. Quatre joueurs, il les élimine. Quand il a décidé de centrer en retrait plutôt que de la jouer perso, c'est encore mieux. Et il est capable de le faire. Quand il a décidé d'enrouler fort lucarne opposée, il est capable de le faire. Quand il a décidé de prendre tout le monde de vitesse, il le fait. Et c'est vraiment une énorme valeur ajoutée pour cette équipe de Milan. Mais malgré tout, avec cette individualité qui est capable de te sortir de situations où le collectif ne parvient pas à faire la différence, parce que ça arrive, parce qu'on tombe sur une super défense, ou des joueurs qui sont un peu moins bien à l'instant T, ou un soir où ça veut pas rigoler, ou un soir où les attaquants ratent des occasions, etc. Tu as cette individualité-là, mais le collectif est quand même génial. Moi, honnêtement, je suis admiratif du travail de Pioli, parce que quand il a été nommé à Milan en 2020, je ne m'y attendais pas. Ça fait partie aussi, et ça c'est une très bonne leçon pour les supporters, mais aussi pour nous journalistes, de ne pas enfermer des entraîneurs parfois dans des cases, parce qu'ils sont tout à fait capables d'évoluer. Alors sauf Massimiliano Allegri, mais je veux dire des entraîneurs normaux. Ils sont tout à fait capables d'évoluer, de se remettre en question, de se remettre au travail, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, de piocher des bonnes idées à droite à gauche, de les amener, de beaucoup travailler sur comment faire une équipe moderne, capable d'avoir un jeu plus européen, etc. Et c'est ce qu'on voit à Milan. Quand vous avez aujourd'hui à Milan des joueurs, Selmakers, c'est pas une star. Je veux dire, c'est un bon joueur, mais Messias, c'est même pas un, pour moi, hein, dans mes critères, Messias, c'est pas un bon joueur. Radek Krunic, c'est un joueur moyen de Serie A. Florenzi, c'est un joueur moyen de Serie A.
Souvent, la des grands entraîneurs arrivés à tirer le maximum
Empoli,
de leurs joueurs.
À Empoli, ils ont joué avec Balotouré. C'est pas un bon joueur de Serie A. Enfin, il arrive à faire quand même des choses assez extraordinaires avec, quand il a son 11 titulaire, des super joueurs. Et encore, on peut discuter sur le terme super. Mais quand il manque 5 ou 6 éléments, avec des joueurs moyens pour certains, mais qui ne pénalisent pas le collectif.
Le registre de Brice italien, voilà. On peut le dire comme ça.
C'est un nom que je ne connaissais pas il y a quelques semaines, mais c'est devenu l'idole d'RMC.
On aime beaucoup en parler. Polo, ce sera mercredi soir, hein, Chelsea-Milan. Match très important pour la suite en phase de groupe. Polo, le Bayer Leverkusen a pris une belle fessée à Munich avant d'aller à Porto. Début de saison catastrophique du Bayer.
Le pire début de saison depuis la saison 1982-1983, à une époque où le Bayer Leverkusen n'avait pas beaucoup de moyens, en tout cas n'était pas un outil de communication de la multinationale Bayer. Donc ça commence à remonter, ça fait 40 ans. Ils se sont fait étrier, comme tu viens de le dire, vendredi à Munich. Encore un but encaissé dans les premières minutes de jeu. En gros, dans le premier quart d'heure, si je me rappelle bien, 8 journées, ils en ont pris 5. Ce qui est assez dramatique, si tu veux, c'est qu'on ne voit pas comment ils peuvent s'en sortir. Le patron du Bayer Nulfir Leverkusen, dont on n'entend jamais parler, le président espagnol Fernando Caro, évidemment, qui est très proche de la multinationale, est sorti en interview, puisqu'il était l'invité de Doppelpass ce week-end, et a commencé à mettre une pression très très forte. Donc on est carrément passé au-dessus du sportif, ce qui est très très rare à Leverkusen. Donc c'est vrai que Rudi Völler, l'ancien directeur sportif, n'est plus là, remplacé par Rolf Hess. Mais là on passe, tu vois, à l'étage supérieur. Quand le président il sort ou il monte le doigt, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il a dit que je veux des résultats très très rapidement. Donc évidemment la pression est énorme sur le coach suisse Gerardo Seoane, qui avait fait un super boulot l'année dernière en finissant troisième, et donc en qualifiant Leverkusen pour la Ligue des Champions. Mais ce qui est dramatique à Leverkusen, et là c'est l'un peut-être son plus grand défaut, c'est que c'est un club où il n'y a pas énormément de pression des supporters. Encore une fois, c'est un stade de 30 000 places où il y a plus 25 000 spectateurs de moyenne, ce qui pour les standards de la Bundesliga est ridicule. Et c'est pour ça que je dis souvent que Leverkusen reste une banlieue, reste la banlieue de Cologne, enfin, et ça n'a rien à voir à ce niveau-là. Et donc si le groupe ne se motive pas lui-même, s'il n'arrive pas à trouver les bons joueurs, l'ADN et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe la même chose qu'on a vécu avec Johan l'année dernière lors de la rencontre contre l'Atalanta. T'avais une équipe en face qui en voulait, qui mettait de l'intensité dans les duels, etc. Et là, les Leverkusen, ils ne font strictement rien. La défense est complètement à la rue, et pourtant, je peux vous assurer qu'individuellement, c'est ce qu'il faut. On change les schémas de jeu. Parfois, on passe en défense à 3, défense à 4. On a quand même Incapié en défense centrale. On ne sait pas aujourd'hui quel est vraiment son poste. On le surnomme le Maldini d'Amérique latine. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il est très jeune, évidemment. On va voir sa carrière. Mais il y a tout ce qu'il faut, il y a les internationaux à tous les postes, et ça ne fonctionne pas. Donc tout ça va être très délicat, surtout, j'ai presque envie de dire, on se demande encore comment ils ont pu l'emporter contre l'Atlético de Madrid. C'est en Ligue des Champions, et dans les dernières minutes de jeu, à partir de la 80e, si je me rappelle
bien. Parce que l'Atlético a bien fait, l'Atlético cherchait le 0-0, ouais, et quand tu vas à un moment, tu te fais punir, et c'est normal, quoi.
Ouais, non, mais c'est quand même assez impressionnant. En plus, j'ai vu Porto là, notamment la première mi-temps de Porto contre Braga ce week-end. Je pense que comme Leverkusen n'arrête pas à se prendre des buts, ça va être dramatique. En attaque, Schick, il met plus un pied devant l'autre dans le but. Et Diaby est très loin de ses standards de l'année dernière. Donc tout ça, c'est que le club est vraiment en crise. D'ailleurs, c'était le titre.
17e en Bundesliga.
Ils sont 17e sur 18, donc ils sont relégables aujourd'hui. Et ce que pour finir, c'était juste que le match de vendredi, c'était considéré comme le match des crises, celle du Bayern et celle de Leverkusen. Il y en a un club, évidemment, le club Munich en est sorti. Il y en a un qui a la tête en pleine dent, c'est Leverkusen. Et donc le match à Porto va être très, très important.
Voilà pour le Bayer Leverkusen. Dans un instant, on va parler de Liverpool également. Qu'est-ce qui cloche à Liverpool? Jürgen Klopp parle d'un problème de confiance de ses défenseurs. 8 buts encaissés sur les 3 derniers matchs. Et puis également, on va parler de Lopetegui, qui depuis 3 semaines, qui est en sursis. Et a priori, le coup près va tomber dans les prochains jours, prochaines heures peut-être.
Peut-être même ce soir. Il y a une réunion là des dirigeants de Séville qui pourraient prendre la décision que tout le monde attend depuis un moment, c'est-à-dire le départ de l'entraîneur basque.
Dans un instant, les questions des auditeurs de Génération After, drôle de dame. Au 32-16, vous pouvez nous appeler aussi pour poser vos questions à Fred, Johan, Julien et Polo. RMC 20h44. À tout de suite.